Vous écoutez, on lit pour vous.
Le perlage, entre patience et joie d'apprendre. Un texte de Sarah Venn-Ouellet, paru le 14 juin 2023 dans l'Eau Vive, en Saskatchewan. La communauté francophone accueillante, CFA de Gravelbourg et Moose Jaw, a rassemblé à l'École du Charme 23 Françaisquois à l'occasion d'un atelier de perlage. Animé par Jolantan Bird, artiste ojibwé, l'activité a permis aux participants de repartir avec un papillon de perles colorées et de nouvelles connaissances sur la culture autochtone. Jolantan Bird, animatrice de l'atelier, fait du perlage depuis son enfance. Je pratique cet art à la maison. J'étais agréablement surprise par l'intérêt de la CFA pour le perlage car c'est une belle occasion de montrer ma culture. Plusieurs participantes ont apprécié la patience et la concentration qu'exige cet art. Au travers des encouragements de leurs amis, elles ont fièrement enfilé leurs perles colorées pour former un papillon, symbole de transformation personnelle dans la culture des Ojibwé. Tout un état d'esprit. Pour l'artiste, le perlage est un art pour lequel il est important d'adopter une bonne attitude lors de son exécution. Pendant qu'on fait le perlage, on veut mettre une prière ou une bonne intention. C'est pour calmer la tête. Quand j'ai de bonnes pensées, mon perlage est beau. Et quand je suis stressé, je commence à avoir des petits nœuds dans mon fil. Odile, une participante originaire du Bénin qui vit à Moose Jaw depuis 7 ans, a observé qu'il faut de la concentration et patience pour faire du perlage. Si tu continues à le faire, tu vas apprendre la patience, mais si tu n'as aucune patience, ne t'en approche pas, conseille-t-elle. Brenda, qui est originaire de l'île Maurice et qui habite à Moose Jaw depuis 8 ans, a trouvé sa première initiation au perlage très amusante. Quant à Jenny, originaire de Québec et résidente de Moose Jaw depuis 2 ans, l'expérience a été relaxante et l'a aidée à trouver sa concentration. Enfin, pour Johanna, une autre participante originaire de l'île Maurice nouvellement établie à Moose Jaw, le perlage est une bonne façon de s'évader. J'ai toujours voulu faire du perlage, confie-t-elle, alors quand j'ai vu l'annonce pour l'atelier, je me suis dit pourquoi pas. En plus, le fait que ce soit francophone me donne l'occasion de parler en français. Un échange entre francophones. Sandrine Lebon, chargée de projet pour la CFA, organise des activités comme celle du perlage pour rassembler tout le monde et faire du réseautage. Et c'est justement ce qui a attiré plusieurs des participantes. Jenny se joint aux activités de la CFA pour rencontrer des gens, acquérir de nouvelles connaissances et parler en français. Pour Brenda, les activités créatives sont l'occasion de communiquer avec des personnes de différents pays. Pour sa part, Odile aime apprendre entourée d'amis. Aux activités de la CFA, on rencontre des amis et des gens. Les enfants jouent. J'aime que tout le monde soit là, et si je trouve que ce que je fais est difficile, quelqu'un m'encourage à continuer. Pour couronner l'atelier, les participants ont fièrement montré leur création en perles, le tout dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. C'était Le perlage entre patience et joie d'apprendre, un texte de Sarah Venn-Ouellet, paru le 14 juin 2023 dans L'Eau Vive, en Saskatchewan.
Comment aider les élèves à conserver leurs acquis pendant les vacances scolaires? Un texte de Richard Sima du Washington Post, paru le 17 juin 2024 dans Le Devoir. L'école est presque finie. L'été sera bientôt là, et avec lui revient la crainte vivace que les élèves du primaire oublient ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Cela fait au moins un siècle que les parents et les enseignants s'inquiètent de la perte des acquis pendant l'été, aussi appelé « recul estival ». La bonne nouvelle est que la perte d'apprentissage estival n'est peut-être pas aussi grave qu'on le craignait, d'après les recherches. Des études ont soulevé des doutes sur le degré de nuisance de cette perte, ou sur son existence même. Que savons-nous réellement? Moins que nous le pensons, a déclaré Paul von Hippel, professeur d'affaires publiques et doyen associé à la recherche à l'Université du Texas à Austin. Bien que les élèves semblent apprendre moins et risquent d'oublier pendant l'été une partie de ce qu'ils ont appris, les chercheurs en éducation affirment qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure des vacances d'été. Elles peuvent être l'occasion d'apprendre, de rattraper le temps perdu ou de raviver la soif d'apprendre chez l'enfant. Il y a beaucoup de choses que les parents et les familles peuvent faire pour atténuer la perte des acquis pendant l'été et pour susciter le désir d'apprendre chez les enfants, a déclaré Kathleen Lynch, professeure adjointe en sciences de l'apprentissage à l'École de l'éducation NEAG de l'Université du Connecticut. Contrairement à la perception populaire, la science au sujet de la perte d'apprentissage en été chez les élèves du primaire n'est pas établie. En 1996, une méta-analyse a mis en lumière le fait que les élèves perdent en moyenne un mois d'apprentissage en lecture et en mathématiques au cours de l'été. Cette méta-analyse a également fait craindre que l'été ne creuse le fossé entre les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés et ceux issus de milieux plus aisés, a déclaré Megan Kofeld, directrice de la modélisation de la croissance et de l'analyse à la Northwest Evaluation Association, NWEA, un organisme d'évaluation des résultats scolaires. Mais bon nombre des résultats de ces premières études n'ont pas été reproduits systématiquement. Dans un article influent paru en 2019 dans Education Next, M. von Hippel a souligné l'absence de consensus en matière de recherche et l'abondance de questions sans réponse sur la perte d'apprentissage estival. Un recul difficile à évaluer. La recherche sur la perte d'apprentissage en été est un défi. Idéalement, les élèves devraient passer des examens juste avant de partir en vacances d'été, et à nouveau lorsqu'ils retournent à l'école à l'automne. Ces examens devraient également porter sur les mêmes matières. Mais dans les études les plus anciennes, peu de tests étaient axés sur la manière dont les vacances d'été influaient sur les acquis et, au lieu de cela, ils se basaient souvent sur des tests qui avaient été rédigés dans un but différent, a déclaré M. von Hippel. Des tests créés avec des méthodes plus modernes n'ont toutefois pas apporté de réponse claire. Dans une étude réalisée en 2023, von Hippel et ses collègues ont comparé trois tests différents, permettant de suivre les compétences en mathématiques et en lecture d'élèves du primaire dans les années 2010 aux États-Unis. Ils ont constaté que les divers tests donnaient des résultats différents sur le recul estival. Le test NWEA, largement utilisé, montre que les enfants ont perdu 2 à 3 mois d'apprentissage en mathématiques et en lecture. En revanche, le test ECLS-K, Early Childhood Longitudinal Studies, administré par le gouvernement fédéral et axé sur les cohortes de maternelle, a montré que le glissement estival n'était pas significatif. Les élèves ont perdu moins d'une semaine d'apprentissage en lecture et il n'y a pas eu de différence statistique en mathématiques. Un troisième test, réalisé par la Société Renaissance, spécialisée dans les tests éducatifs, a révélé des reculs importants en mathématiques, semblables à ceux montrés par le test de la NWEA, mais des reculs moindres en lecture. Dans une analyse récente comparant la perte d'apprentissage estival pour chaque test, y compris un quatrième nouveau test, Mme Kofeld a été surprise par l'ampleur de la variation, a-t-elle déclaré. Les recherches les plus récentes ne permettent pas de déterminer si l'été creuse les inégalités éducatives en fonction du statut socio-économique, de la race ou du sexe. La question de savoir qui apprend plus que qui ou qui oublie plus que qui, est très difficile, a déclaré M. von Hippel, et je la considère comme non résolue. Vous écoutez « Comment aider les élèves à conserver leurs acquis pendant les vacances scolaires ?» un texte de Richard Sima du Washington Post, paru le 17 juin 2024 dans Le Devoir. Il est difficile de comprendre les causes de ces différences de recul d'apprentissage en été, car les informations détaillées ne peuvent pas être facilement comparées. Selon Mme Kufeld, il est difficile d'obtenir des entreprises privées de tests éducatifs qui ont des intérêts commerciaux concurrents qu'elles transmettent leurs données. De plus, les questions posées lors des examens ECLS-K, administrés par le gouvernement fédéral, ne sont pas non plus divulguées aux chercheurs. Pour les chercheurs en éducation, il s'agit d'un domaine en pleine évolution pour le moment, a déclaré Mme Kufeld. Mais je préfère avoir plus de données que moins de données, a-t-elle ajouté. Quelle est donc la leçon à tirer pour les parents et les enseignants? Je pense qu'il est clair que les élèves n'apprennent pas grand-chose pendant les vacances d'été, en moyenne, a déclaré M. Von Hippel. L'apprentissage des élèves stagne ou régresse quelque peu pendant l'été, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure, en moyenne. Selon les chercheurs, il existe également une variation entre les élèves, les écoles et les districts. La quantité d'apprentissage varie davantage pendant l'été que pendant l'année scolaire, où les élèves bénéficient d'une expérience éducative plus standardisée. M. Von Hippel a également souligné que les enfants apprennent et oublient des choses pendant l'été, mais qu'ils en oublient également pendant l'année scolaire, bien que dans une moindre mesure. « Je vois cela comme un enfant qui escalade une dune de sable », a déclaré M. Von Hippel. « Ce que l'on voit en été, c'est que l'on marche moins et que l'on glisse davantage. » Selon les chercheurs, il ne faut pas s'inquiéter ou craindre une perte d'apprentissage pendant l'été. Il faut considérer plutôt l'été comme une occasion d'en apprendre davantage. Les élèves en retard peuvent rattraper leur retard, tandis que ceux qui sont en avance peuvent bénéficier d'un enrichissement supplémentaire, a déclaré M. Von Hippel. Les programmes d'été officiels sont une option, et les données disponibles laissent croire qu'ils peuvent être utiles. Une méta-analyse de 37 études sur les programmes d'été en mathématiques, réalisée en 2021, a montré qu'ils pouvaient améliorer les résultats des élèves en mathématiques. Cependant, les parents peuvent aider leurs enfants à apprendre même sans les inscrire à un programme officiel. Par exemple, une méta-analyse de 2013 portant sur 41 interventions de lecture d'été a montré que les interventions menées à la maison peuvent être aussi efficaces que celles menées en classe. Selon les chercheurs, il est particulièrement important de continuer à lire pendant l'été. Renseignez-vous auprès de votre école pour savoir s'il existe des listes de lecture d'été et assurez-vous que les enfants ont accès à la bibliothèque, conseille Mme Kufeld. Les parents peuvent servir de modèle en lisant eux aussi pour montrer que « la lecture fait partie de la vie », a déclaré Mme Lynch. Les mathématiques peuvent sembler plus difficiles à intégrer dans la journée, mais elles sont omniprésentes et se retrouvent dans de nombreuses activités quotidiennes. Pour cuisiner, il faut mesurer les ingrédients. Pour faire les courses, il faut calculer les coûts. Pour faire du sport ou jouer à des jeux de société, il faut compter les points. Même le fait de demander aux enfants de faire des estimations, combien de temps durera une promenade jusqu'au magasin, par exemple, peut être l'occasion d'entretenir leurs compétences en mathématiques sans leur demander d'apprendre leur table de multiplication. La relative liberté des vacances d'été permet aux enfants d'approfondir des sujets qui les intéressent, mais sur lesquels ils n'ont pas eu le temps de se pencher pendant l'année scolaire. Créer des occasions d'apprentissage agréables dans la vie quotidienne des enfants, a déclaré Mme Lynch. Concentrez-vous sur le plaisir d'apprendre plutôt que de vous stresser sur la perte d'apprentissage pendant l'été. C'était Comment aider les élèves à conserver leurs acquis pendant les vacances scolaires? Un texte de Richard Sima du Washington Post, paru le 17 juin 2024 dans Le Devoir.
Prix engagement exceptionnel, Geneviève Tremblay, œuvrer avec humilité. Un texte de Rebecca Fico, paru le 30 mai 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. Le prix « Engagement exceptionnel » est un prix décerné chaque année à une personne ayant démontré un engagement exceptionnel à faire rayonner la francophonie. Le 15 mai dernier, il a été remis à Geneviève Tremblay, coordonnatrice en petite enfance et aux familles multilingues à l'école Émilie Tremblay et conseillère pédagogique de la Commission scolaire francophone du Yukon, CSFY. Originaire du Québec, Geneviève Tremblay a fait ses études en enseignement à l'Université Laval. Elle commence sa carrière en enseignant différents niveaux dans la ville de Québec pendant 7 ans. Citation : Je suis quelqu'un qui aime essayer de nouvelles choses, donc j'ai autant enseigné en maternelle qu'en 6e année. Fin de citation, raconte Geneviève Tremblay. Ensuite, suivant un soudain goût d'aventure, elle part enseigner dans un lycée français à Calgary avec son conjoint pendant 1 an. Citation : Pendant cette année-là, on est venu au Yukon faire un voyage de canot camping. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour le Yukon et je me suis dit « On vient pour 1 année ». C'est classique, je sais. Fin de citation, décrit-elle. À son arrivée en 2005, l'enseignante est embauchée par l'école élémentaire de Whitehorse pour enseigner en immersion tardive, un programme tout nouveau à l'époque. Ne cessant d'explorer différents postes et niveaux dans ce programme, Geneviève Tremblay y travaille jusqu'en 2015, année où elle fait son entrée à l'école Émilie Tremblay. Citation : Au début, le poste que j'ai accepté s'appelait coordonnatrice à la petite enfance et aux familles multilingues. C'est le même poste que j'occupe depuis 9 ans, mais au fil des années, on a ajouté un volet de conseillère pédagogique à la CFFY. Fin de citation, explique-t-elle. Engagement exceptionnel toute l'année. Geneviève Tremblay partage avoir 2 grandes passions, l'enseignement et la danse. Citation : J'ai la chance de faire un travail qui me passionne vraiment et qui me donne carte blanche pour faire tous les projets que je veux, ou presque. Fin de citation. Quelques projets auxquels elle participe sont la ludothèque, près de jeux de société communautaire, le colloque en petite enfance qu'elle organise tous les 2 ans et le salon du livre, événement annuel. La ludothèque a été fondée il y a près de 5 ans par Geneviève Tremblay, Jocelyne Isabelle et Leslie Larbalestrier et demeure un projet très vivant et actif. Le colloque en petite enfance consiste en une série de conférences et de formations données par des formateurs et formatrices réputés pour parents et intervenantes et intervenants. Citation : Le salon du livre d'Émilie Tremblay existe depuis 15 ans et celle qui a toujours été à la tête de ça, c'est Julie Dessureau. Donc, je me suis greffée à elle pour contribuer à ce beau salon du livre qui a lieu chaque année. C'est vraiment un beau projet qui me tient à cœur pour inspirer les personnes et favoriser la lecture. Fin de citation, partage Geneviève Tremblay. Son rôle crucial dans la planification du Salon du Livre et dans les colloques sont quelques-unes des raisons principales pour lesquelles elle a reçu le prix Engagement exceptionnel cette année. Et ce n'est pas tout. Plusieurs samedis par année, Geneviève Tremblay et Sandra Saint-Laurent, directrice du Partenariat Communauté en Santé, PCS, organisent également des ateliers d'animation culinaire en ligne ou parfois en présentiel. Citation : C'est pour les familles, les adolescentes et adolescents, les adultes, peu importe. C'est vraiment pour être toutes et tous ensemble dans nos maisons avec un sac d'épicerie, faire des recettes santé et avoir de l'information sur l'alimentation. Fin de citation, explique Geneviève Tremblay. Les ateliers sont généralement animés par Anna Lee, diététicienne. Geneviève Tremblay tient à souligner que tous ces projets sont accomplis avec l'aide de plusieurs membres de la communauté, spécialement ses collègues Jocelyne Isabelle et Leslie Larbalestrier de la garderie du Petit Cheval Blanc et Maude Caron, Julie Dessureau et Stéphanie Moreau de la CSFY. Geneviève Tremblay s'engage également dans la communauté anglophone grâce à sa 2e passion, la danse. Citation : Ça fait 25 ans que je fais toutes sortes de styles de danse. Je vais souvent voir des spectacles et je siège au conseil d'administration de l'école de danse Northern Lights. Je fais beaucoup de bénévolat pour cette école que j'aime beaucoup. » Fin de citation. Un atout incontestable pour la communauté. Isabelle Salès, directrice générale de l'Association franco-yukonaise, AFY, décrit Geneviève Tremblay comme, citation, « une véritable force motrice dans le secteur de la petite enfance. » Ellipse. Malgré sa discrétion et son humilité, elle œuvre dans l'ombre avec ardeur, contribuant de manière exceptionnelle à toutes ses initiatives. Fin de citation. Geneviève Tremblay raconte être très étonnée d'avoir été choisie comme récipiendaire du prix. Citation. « Quand on m'a écrit, pour m'annoncer la nouvelle, je me suis dit, « Mais non, ça se peut pas, il y a une erreur. » Dans notre communauté, il y a tellement de personnes dynamiques qui font des projets extraordinaires et qui m'inspirent que je ne m'y attendais vraiment pas. » Fin de citation. Elle est très heureuse d'être la récipiendaire du prix 2024, mais admet que cette reconnaissance la rend légèrement inconfortable. Citation. « Ça me gêne quand les gens portent attention à ce que je fais, car pour moi, c'est tellement naturel. Je me dis, « Ben voyons, c'est quelque chose que je fais naturellement et que j'adore. » Mais je le reçois et je l'accueille avec beaucoup de joie et je me sens très honorée. Je sens la vibe d'amour de ma communauté. » Fin de citation. C'était « Prix engagement exceptionnel, Geneviève Tremblay, œuvrée avec humilité ». Un texte de Rebecca Ficot, paru le 30 mai 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon.
Pour en finir avec les pupitres d'école aux poubelles. Un texte de Sarah Champagne, paru le 25 mars 2024 dans la presse. Comment ils sont passés de la parole aux actes? Au lieu de jeter aux poubelles les vieux pupitres d'école, un élan pour les remettre à neuf prend forme au Québec et pour les redistribuer par la suite dans le réseau au moyen d'une plateforme numérique. Le remodelage ne se limite pas aux pupitres. Il s'étend aux chaises, aux casiers, aux classeurs et aux mobiliers de bureau. Il faut arrêter une fois pour toutes de jeter aux poubelles, lance Vicky Vaskelis, l'une des dirigeantes à l'origine du centre de tri virtuel nommé Réutilisons, une jeune entreprise de récupération, de remodelage et de redistribution gratuite. Madame Vaskelis raconte que les forces armées canadiennes, rue Sainte-Catherine à Montréal, ont permis à une dizaine d'organismes communautaires de se meubler. Il y a aussi le ministère de l'Agriculture, MAPAC, qui avait 148 chaises dont il voulait se débarrasser. Près d'une centaine d'entre elles ont été récupérées, notamment par une maison des jeunes et un comptoir d'aide alimentaire. Une maison d'hébergement a profité du vieux mobilier de la CNESST et ainsi de suite, ajoute-t-elle. Les organismes participants obtiennent un certificat de traçabilité du processus de gestion des matières résiduelles. Le service est gratuit pour les organismes à but non lucratif et pour les services scolaires. Une contribution de 1 $ par article sélectionné est demandée aux entreprises privées pour les frais d'utilisation de la plateforme. Nous venons tout juste de conclure une entente avec 3 écocentres du nord de Laval afin que les écoles puissent y déposer leurs vieux pupitres, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie et Prévost. La prochaine étape sera d'obtenir des ententes avec les centres de tri à Montréal. On aimerait aussi créer un système de consignes. Ça paraît simple à implanter, mais il y a tout un processus de récupération à mettre en place avec les équipements mécanisés des centres de récupération, relève Mme Vaskelis. En amont du service en ligne, l'entreprise Réutilisons travaille à bâtir un réseau de réparateurs, de restaurateurs, de déménageurs et de recycleurs. Dans le cas des pupitres, par exemple, le vieux revêtement beige est retiré, la base en métal est repeinte, des vis, boulons et écrous sont changés. Du neuf avec du vieux. Pour mesurer l'étendue de la récupération de mobilier, on a rendez-vous rue Deslauriers dans Saint-Laurent, au cœur de l'île de Montréal. des montagnes de pupitres défraîchis et de casiers sont empilées dans un gigantesque entrepôt du Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, CSSMB. On reconnaît bien le design beige des années 1970. Sous certains bureaux, il y a encore de vieilles gommes à mâcher durcies. Dans une autre pièce, des pupitres d'un noir cobalt sont alignés. Ils sont vieux même s'ils ont l'air flambant neufs. Marjolaine Fournier est coordonnatrice au secteur de la gestion contractuelle et approvisionnement du CSSMB, le deuxième centre de services scolaires en importance au Québec, avec 103 établissements scolaires à gérer. Elle dirige un projet pilote de remise à neuf. Les vieux pupitres restaurés proviennent de l'école Saint-Clément, qui est en pleine transformation, explique-t-elle. Grâce à l'entreprise Réutilisons, 167 chaises de la même école ont été redistribuées, gratuitement, dans des classes du Centre de services scolaires de Montréal, CSSDM. « On fait de l'économie circulaire », affirme-t-elle. « C'est la première fois qu'on tente une pareille expérience. On a trouvé la main-d'œuvre pour faire la restauration grâce à des contacts dans le réseau. En récupérant au lieu de jeter, on estime qu'on a économisé 30 % des coûts pour une centaine de pupitres et de nombreux classeurs. Mais il reste un bilan complet de l'expérience à tracer avant d'étendre le projet, avant de lancer un appel d'offres plus large, fait valoir la coordonnatrice. La démarche du CSS Marguerite Bourgeois a pris naissance à la suite d'une série de rencontres avec les élèves dans le cadre du plan d'engagement vers la réussite, ajoute Mélanie Simard, responsable des communications du centre. À leur demande, on a commencé par éliminer complètement les bouteilles d'eau en plastique. Nous privilégions de plus en plus les achats locaux. Les élèves nous ont ensuite parlé longuement des mesures que le CSSMB pourrait prendre pour réduire le gaspillage. L'idée de restaurer les pupitres au lieu de les jeter est née de leur demande. Le concept de remise à neuf de ces pupitres demeure à développer au CSSMB. Et c'est là que le centre de tri virtuel, Réutilisons, innove en offrant une plateforme gratuite non seulement aux écoles, mais également à tous les organismes publics et communautaires et aux entreprises privées pour les meubles en fin de vie. 595 133 kg, nombre de kilos de biens détournés des sites d'enfouissement. Source, centre de tri virtuel Réutilisons. C'était, pour en finir avec les pupitres d'école aux poubelles, un texte de Sarah Champagne, paru le 25 mars 2024 dans la presse.